Couture.
Les gens qui veulent pas rien savoir de ça, là, ben allez-vous en.
Dans le Mid.
Avec Pierre Couture et Nick Cloutier.
Radio. X.
Ouais, ben on essaie toujours là, de comprendre le drame qui a eu lieu samedi matin dans Beauce. L'autobus scolaire qui a, de toute évidence, fait des tonneaux. Là.
Ouais.
Il y a un jeune,
c'est des routes difficiles, là, en terre.
Écoute, puis là, il mouillait, c'était l'enfer. Ah, ouais. Il y a un jeune qui est décédé, d'ailleurs.
Très triste.
Toutes nos pensées à la famille. Des jeunes cadets.
Oui.
Des jeunes qui avaient un avenir. Ils sont fait bardasser pas à peu près, là.
Ouais, ça a dû brasser.
Mais j'ai hâte de voir comment on va expliquer tout ça. La vitesse.
Ben, tu sais, c'est dans une côte qui est quand même assez...
Tu
manquais de frein, ça a-tu dérapé?
Ah non, toutes les réponses sont bonnes, là, d'après moi.
Il y a une couple de routes en Beauce qui sont encore en terre de même, là, en gravier. Ce serait peut-être le temps des pavés, là.
Ouais,
c'est ça. Il y en a plusieurs, là.
Ouais, non, c'est sûr. Effectivement, mais en même temps, tout est là. Les conditions, la fonte de la neige, la route est molle. Là, il n'y a pas de traction non plus.
Non, c'est ça.
Il y a de la glace.
Pas évident.
Voilà. Bon, notre invité, il est là.
Oui.
Médecin Karim El Ayoubi, comment allez-vous?
Bonjour, ça va bien, vous?
Ben oui, ça va bien. On aime jaser avec vous de la santé. Là, l'histoire du carnet santé, ça va-tu se régler, ça? On a mis beaucoup d'argent là-dedans. Et là, c'est un citoyen, lui, qui demande au gouvernement de transmettre les informations en moins de 30 jours. On doit attendre 30 jours avant d'avoir les informations, les résultats de tests. C'est quand même bizarre, cette histoire-là.
Oui, tout à fait. Moi, je suis 100% d'accord avec ce citoyen. Il faut bien dire, hein, puis moi, je le rappelle là, des fois là, pour les auditeurs qui ne suivent pas toujours nos chroniques. Moi, je travaille près au Québec, mais près des frontières ontariennes. Donc, j'ai plusieurs de mes patients qui vont en Ontario. Et en Ontario, c'est automatique. Hein. Vous allez passer vos tests. Le test est envoyé immédiatement au médecin et aux patients.
Mais oui, me semble que oui, là.
Moi, je pense que c'est tout à fait logique et côté sécurité même. Parce que ce qu'il faut savoir, un médecin qui a une grosse clientèle, des fois, il peut recevoir entre 700 et 800 rapports d'examen par semaine. Le patient, lui, il a eu...
Oh!
Donc...
On vous perd. Docteur El Ayoubi, on vous perd.
Est-ce que vous m'entendez?
Là, ça va, mais on vous a perdu pendant un bout. Peut-être plus se rapprocher de si vous êtes dans le bunker.
Oui, OK. Désolé, vous m'entendez bien maintenant?
Là, ça va, oui.
Parfait. Donc, c'est ça, moi, je suis d'accord avec ce citoyen-là, parce que lorsqu'on regarde les choses, côté sécurité, je pense que c'est tout à fait avantageux. Parce que des fois, un médecin peut recevoir entre 700 et 800 rapports de laboratoire ou d'examen par semaine.
Okay? Oui.
S'il y a une grosse clientèle, le patient, et ça peut éviter des erreurs. La plupart du temps, on voit nos résultats, on suit nos résultats, mais l'erreur étant humaine, si le patient voit son résultat anormal, rapidement, ben lui, il peut alerter le médecin rapidement. C'est sûr que la prémisse pour laquelle on donnait un 30 jours, c'est pour pas créer d'anxiété au patient. C'est donner le temps au médecin de voir le résultat, parce que des fois, le patient, ça peut lui créer de l'anxiété. Par exemple, il voit qu'il y a un rapport de scan qui dit qu'il y a un petit nodule pulmonaire. La plupart du temps, c'est juste un contrôle dans 6 mois, dans 12 mois.
Mm-hmm.
C'est pas grave, mais le patient peut s'imaginer qu'il y a un cancer, puis ça peut lui créer de l'anxiété le temps qu'il y a rendez-vous avec son médecin. Mais tant qu'à moi, c'est mieux de créer un peu d'anxiété plutôt que d'avoir des erreurs ou des examens qui sont vus trop en retard. Donc, dans certains cas, ça peut éviter des erreurs. Et moi, je pense que temps réel ça peut leur permettre d'alerter leur médecin, de se prendre un rendez-vous rapidement. C'est comme ça que ça fonctionne en Ontario. Puis j'espère que les tribunaux vont trancher en faveur de ce citoyen. Là, il faut dire que ça a été rejeté, mais ça a été rejeté juste là. Le tribunal n'est pas allé sur le fond. Mais j'espère que lorsque ça va aller vers... Soit que le ministre de la Santé va décider autrement d'ici ce temps-là, ou sinon que les tribunaux tranchent sur le fond et disent que les patients ont le droit de voir leur examen immédiatement et en même temps que le médecin. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Côté sécurité, je pense que c'est la meilleure chose.
Là, c'est le 30 jours, c'est le délai de la loi, hein? C'est ça qui c'est le gouvernement qui a statué ça. Là, il me semble qu'aujourd'hui, à l'ère de l'information, là, on est capable de voir nos comptes de banque en temps réel, ce qui n'était pas le cas il y a une couple d'années, mettons. Là.
Oui.
Il me semble qu'on pourrait avoir accès à son dossier médical, surtout que le gouvernement en faisait une prémisse. Là, à un moment donné, on allait avoir tout ça en direct. Là.
Oui, absolument. Moi, je suis d'accord avec ça. Puis la santé, votre santé, ça vous appartient. ça appartient à vous avant d'appartenir à votre médecin, tant qu'à moi. Donc, vous devez avoir le droit de voir vos examens en temps réel. Puis moi, j'aime mieux faire des lois en fonction de croire en l'intelligence des gens. Je pense que les gens sont assez intelligents pour regarder leurs examens, pour voir est-ce qu'il y a des choses qui sont anormales, est-ce qu'il y a des choses qui sont normales. Puis c'est sûr que des fois, ils vont voir une petite affaire anormale, ils vont aller sur Dr. Google, puis là, ils vont s'imaginer qu'ils ont toutes les maladies du monde.
Ouais.
C'est un effet néfaste de ça, mais si on prend les risques et les bénéfices du fait que les patients voient leurs examens en temps réel, moi, je pense qu'il y a plus de bénéfices que de risques. Donc, je suis du côté de ce citoyen qui poursuit le gouvernement.
On parle de ramener ça à 7 jours.
Oui, ben, je veux dire, bon, 7 jours à partir de ce moment-là, tu sais, ça m'apparaîtrait tout à fait correct, là. Pourquoi ce ne serait pas immédiatement?
Ben oui, exactement.
Moi, je pense que vous avez vos. À partir du moment où il est envoyé à votre médecin, il devrait vous être renvoyé en même temps. C'est votre santé, ça vous appartient, vous avez le droit de le voir.
Voilà. Champignons magiques, là, il y a une bataille contre Santé Canada. Il y a des médecins qui voudraient peut-être tester des champignons magiques au niveau de certaines clientèles, j'imagine. Est-ce que c'est quelque chose qui est pensable à court terme, moyen terme, long terme?
C'est assez intéressant, l'histoire des champignons magiques. C'est la substance active, ça s'appelle la psilocybine.
Oui, exact.
Il y a de plus en plus d'études par rapport à ça. C'est sûr qu'il n'y a pas des grandes études randomisées à double insu sur une période très longue, des grandes études longitudinales.
Ouais.
Donc, je ne suis pas en train de dire aux auditeurs, prenez des champignons magiques, c'est extraordinaire. Je ne suis pas du tout en train de donner de conseils.
Elle n'est pas là, là.
Non, on va pas là du tout. Par contre, la réalité, c'est qu'en Australie, c'est utilisé à beaucoup plus grande échelle qu'ici. C'est permis par la loi. Ici, c'est une substance qui est encore considérée comme illégale, sauf certaines exceptions, des patients avec anxiété en soins palliatifs, en soins de fin de vie, ou des cas réfractaires de dépression que le psychiatre est autorisé à les utiliser chez ses patients. Mais ce qui est intéressant avec la psilocybine, ce qu'on se rend compte, ça agit un petit peu de la même façon que le fameux neurotransmetteur qui est la sérotonine, mais les études nous démontrent qu'il y a des effets des fois assez spectaculaires chez des dépressions qui sont résistantes à plusieurs types d'antidépresseurs. Son action sur le cerveau, là, vous vous souvenez, vous avez des neurones, il y a une petite synapse là, qui fait la transmission électrique entre deux neurones. Puis c'est un neurotransmetteur qui fait cette transmission-là. Mais la psilocybine, elle permet dans des troubles psychiatriques, elle permettrait là, au conditionnel, dans des troubles psychiatriques, d'améliorer le fonctionnement des circuits neuronaux, de faire en sorte que vos circuits ont des patterns qui sont moins rigides. Donc, ça pourrait briser les patterns d'anxiété sévère, de troubles de syndrome de choc post-traumatique et également d'anxiété et de dépression sévère. Donc, selon certains psychiatres, ce serait assez prometteur et il y aurait des effets assez spectaculaires pour des cas, certains cas psychiatriques bien ciblés. Donc, je pense que ça va être intéressant de voir l'avenir de cette substance-là qui est dans ce qu'on appelle là, des champignons magiques à petite dose.
Ouais.
Le donner, mais il faut s'entendre, là, c'est vraiment à petite dose. C'est pas ce que vous prenez là, dans la rue ou au terminus.
Non, c'est ça.
C'est pas ça. Mais il semble y avoir des effets assez prometteurs. En science, il faut avoir l'esprit ouvert. Puis j'espère qu'on va avoir plus d'études par rapport à ça. Puis il y a quand même des pays qui sont moins rigides. Et la santé mentale, c'est quand même, ça consomme énormément de coûts pour le système. Ça fait souffrir énormément de gens. On a de plus en plus de problèmes de santé mentale. Si on peut avoir une substance qui aide les patients qui ont des conditions psychiatriques graves à s'en sortir, ben tant mieux. Puis, ça fait un petit bout de temps que je lis là-dessus. Moi, j'ai une clientèle assez importante en santé mentale et c'est quelque chose du moins, il semble y avoir de l'avenir là-dedans.
Ouais. Est-ce qu'au niveau de la communauté des médecins, est-ce que c'est partagé ou il semble avoir un consensus là ou encore là, on regarde aller les affaires et on n'est pas trop rapidement, là, on ne veut pas trop prendre une décision rapide ou on va peut-être tester là, ou regarder les choses aller?
On ne peut pas parler de consensus scientifique.
Non, ouais, c'est ça. Ouais.
Non, on est trop tôt. On ne peut pas parler d'un consensus qui est robuste. Il y a de plus en plus de données probantes qui nous amènent à dire que dans certains troubles, c'est-à-dire dépression réfractaire, syndrome de choc post-traumatique réfractaire, et des troubles anxieux sévères. Il y a de plus en plus de données probantes, mais il est trop tôt pour parler d'un consensus scientifique.
Sur le cannabis, est-ce qu'il y a de plus en plus d'ouverture du côté de la communauté des médecins ou là-dessus encore, on est très, très sur les breaks?
Beaucoup plus, particulièrement pour les patients en soins palliatifs, okay, qui ont des douleurs réfractaires et parfois qui ont de l'anxiété réfractaire. Pour les patients en soins, en fin de soins de vie, parfois on a des patients qu'on essaie des doses de narcotiques très élevées, ça fonctionne pas. On essaie des anti-inflammatoires, on essaie toutes sortes de molécules pour pallier à leurs douleurs. Et le cannabis, lorsqu'on arrive avec le cannabis, ça va les aider de façon importante. Donc, oui, il y a beaucoup plus d'ouverture par rapport au cannabis, particulièrement pour les douleurs réfractaires chez les patients en soins palliatifs.
L'insomnie, ça peut-tu être possible, le cannabis, le CBD ou toutes sortes de dérivés possibles qui pourraient peut-être amener à un patient là, peut-être de retrouver le sommeil? Est-ce que ça se jase de ça ou bien c'est encore très, très embryonnaire?
La réponse est oui, mais on n'est vraiment pas dans des traitements de première là, ou de deuxième ligne. C'est-à-dire, avant de commencer à prescrire du cannabis pour l'insomnie... généralement, c'est plus en pilule. Là. Ça va être en pilule qu'on va le prescrire. Des fois, il y a des médecins qui peuvent prescrire du cannabis inhalé, là, c'est-à-dire fumer du cannabis. Mais pour arriver, que ce soit en pilule, que ce soit du cannabis fumé, entre guillemets, il faut qu'on essaie beaucoup, beaucoup de molécules avant. On n'est vraiment pas dans un traitement de première ligne.
Puis j'imagine les recherches ne sont pas encore très avancées ou ils veulent pas. Le Collège des médecins ne doit pas aimer ça, là?
Bien, c'est-à-dire, en médecine, il y a toujours le principe d'abord ne pas nuire. Hein. C'est toujours la question. On comprend toujours. Lorsque vous êtes un patient en soins de fin de vie, puis vous avez des métastases osseuses, vous avez des douleurs importantes, je veux dire, le risque versus bénéfice de vous prescrire du cannabis, vous allez avoir souvent beaucoup plus de bénéfices. Par contre, si vous, Pierre, vous souffrez d'insomnie, puis moi, je vous prescris du cannabis pour votre insomnie rapidement, et je vous crée une dépendance à ça. Que ce soit, et puis, par exemple, disons que c'est un cannabis inhalé, ben, je veux dire, j'augmente votre risque de maladie pulmonaire obstructive chronique, j'augmente votre risque de cancer du poumon, ces choses-là. Donc, c'est toujours, en médecine, c'est d'abord ne pas nuire. Parce que si vous allez voir un médecin, puis le médecin vous a nui, il vous a créé une dépendance à quelque chose que vous n'auriez pas eu besoin, ben, vous auriez été mieux de ne pas voir de médecin à ce moment-là. Donc, toujours, d'abord ne pas nuire. Essayez les choses qui ont le moins d'effets néfastes sur votre organisme, sur votre corps. Et on va graduellement avec des substances qui sont qui ont un effet plus important et des effets secondaires plus importants en fonction de votre condition médicale.
Voilà. Les négos avec les médecins spécialistes, on est où là? Est-ce que ça a l'air d'être difficile?
C'est très difficile avec les médecins spécialistes. Là ici, on est vraiment rendu à une question salariale, c'est-à-dire les médecins spécialistes au départ demandaient une augmentation de 17 % sur 5 ans. Maintenant, ils ont descendu à 14. Le gouvernement Legault leur offre 11%. Ce que les médecins spécialistes disent, c'est qu'à 11%, ils s'appauvrissent, entre guillemets. J'explique, là, c'est pas dire qu'ils deviennent pauvres, c'est pas le point, là. Mais en ce sens que 11%
de la vie, ans, ouais, tout ça.
Ne couvrira pas l'inflation, donc va diminuer leur pouvoir d'achat et va diminuer leur pouvoir de se mettre de l'argent pour la retraite, parce qu'il faut toujours rappeler, là, je veux dire, le quand vous voyez un chiffre de 400 ou de 450 ou de 460 000, c'est un chiffre d'affaires. C'est pas...
Ils sont incorporés, mais là, il y a des dépenses qui viennent avec ça. J'imagine la question des assurances, là, ça doit coûter un bras pour s'assurer quand tu es un spécialiste?
Ça dépend des spécialités, en réalité. Okay. Ça dépend de la spécialité. Par exemple, les plus élevés, ça va être... Je crois que le plus élevé, c'est obstétrique gynéco. Pourquoi pour l'obstétrique? Parce qu'il y a beaucoup de poursuites quand même en obstétrique.
Les enfants qui naissent, des fois, ouais, ça peut être une erreur ou n'importe quoi, là.
Ah, je pense que là...
On l'a perdu.
On l'a vraiment perdu, ouais.
OK. Et puis là... Bon, je pense on l'a
malheureusement.
On comprend que les négos avec les spécialistes, c'est très difficile.
Oui.
Puis souvent, vous voyez, ils font 400 000, 500 000, 600 000. Là. Mais ça, c'est incorporé. Mais l'autre fois, il y a un spécialiste qui expliquait. Il dit, moi, j'ai des frais de clinique.
Oh, oui, c'est ça.
J'ai des employés qui travaillent. Après ça, il faut que je mette de l'argent pour mon fonds de pension parce que mon fonds de pension, c'est moi qui...
Finalement, dans les poches, après l'impôt, il en reste peut-être pas tant.
Ben, il en reste, là.
Je comprends qu'il en reste.
Pas qu'ils sont pauvres, là. Mais ça dépend aussi le salaire que tu te verses, là. Quand tu es incorporé, oui, oui. Tu peux te verser un salaire moindre. Tu laisses l'argent de la cagnotte dans la caisse, mais à un moment donné, tu peux réinvestir cet argent-là dans l'immobilier ailleurs, là, tu sais. Fait que voilà. Non, mais c'est difficile actuellement avec les spécialistes. Avec les médecins de famille, ça a été plus facile. Bien, facile entre guillemets, parce que Legault, avec son ministre Dubé, ça a foiré, là, tu sais. Je veux dire, Dubé a claqué la porte à cause de ça. Là, on est avec les spécialistes. Donc, voilà, ça fait le tour avec notre médecin Karim El Ayoubi. Les champignons magiques.
Ouais.
Je trouve ça intéressant.
Écoute, j'imagine qu'ils vont faire d'autres tests, d'autres études.
Mais il y en a qui se font soigner avec ça, là.
Je comprends.
Il y a du monde qui nous ont dit qu'ils... peut-être post-traumatique. Tu sais, il y a plein de cas, là. Ça dépendant où t'es...
Tant mieux si ça fonctionne.
Exact.
Voilà.
Voilà. Bon, on ouvre les lignes après la pause.
88-670-9098. Le baril de pétrole, Pierre.
Ça flambe.
Je voyais, là... Le WTY est à 103 US, le Brent 104,30 US, fait que ça fait en sorte que le baril dépasse le 100 US, ça va se refléter à la pompe. Là, il y a des gens qui commencent à être inquiets. Là.
Ben, c'est sûr qu'au niveau de votre coût de la vie, ça monte. Là. Donc, la question, Monique.
Ben, est-ce que vous êtes inquiet de la montée du coût du baril de pétrole? Parce que ça va être directement relié. Tu sais, les vacances s'en viennent. Les gens vont-ils décider de plus partir, peut-être, d'aller moins loin, d'économiser sur l'essence? Parce que ça va se refléter partout. Là.
Ouais, là, pour l'instant, le choc d'inflation, si ça reste longtemps, 120, 150 le baril, pendant, mettons, une couple de mois, mettons, c'était ça, là. Là, ça ferait mal, parce que là, tout va monter, la bouffe va monter, les restos, tout ce qui est transport, le linge.
Je commence un litre d'essence, mettons, à 2 $, là. 2 piastres du litre, ben, ça va commencer à faire mal.
L'autre affaire, les gouvernements, là, la taxe carbone au Québec. Là,
oui, là, il faudrait l'éliminer. Là.
Ben là, c'est ça. Êtes-vous pour l'élimination de la taxe carbone aussi? Là, Duhem demande ça ce matin.
Ben là, oui.
Moi, je regarde les agriculteurs capotent, là, l'UV aussi.
Je comprends.
Je sais que l'UPA...
Le transport, ça va coûter 2 fois plus cher. Donc, inévitablement, tu vas aller à l'épicerie, ça va coûter 2 fois plus cher.
Là, je te fais remarquer que l'inflation, au dernier relevé, était à 3 % au Québec. Dans le reste du Canada, était à 2,3. Ça, c'est notre taxe carbone.
Oui.
Là, le 1er avril, en passant, la taxe carbone augmente encore. Là. Ce que le gouvernement prélève sur l'essence, là, je pense que c'est 6,5 piastres, 7 piastres sur un litre, sur un plein. 7 piastres de taxe carbone, là, ben là, elle va monter peut-être à 8 puis à 9 piastres, là, en plus du prix du pétrole et de l'essence qui
monte.
Donc,
ça inquiète beaucoup de monde. Donc, est-ce que nos auditeurs sont inquiets de cette montée-là?
Et surtout, le gouvernement qui pourrait abolir ça, donner un break.
Ouais.
Les autres couperaient des revenus. C'est sûr que là, hein, la machine a faim. Là. On parle d'un déficit de quoi? 10 milliards à peu près cette année?
À peu près.
Voilà. On revient après la pause.
Couture dans le mid.
Petite pause. On revient dans pas long.
Hey boy. Radio X.